Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Rendez-vous incontournable sur Radio de la Paix. Je vous dis merci d'être nombreux à l'écoute de ce numéro d'Economia qui s'intéresse aujourd'hui à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme. Plus précisément, nous ferons un focus sur l'inscription par le GAFI, le groupe d'action financière de la Côte d'Ivoire et deux autres pays africains sur sa liste grise. Quelles sont les raisons de cette décision et les conséquences sur l'économie de ces pays? Nous en parlerons dans la rubrique Un regard sur la gestion de l'économie, et cela avec Philippe Kodjo, expert en bonne gouvernance et en lutte contre la corruption. Vous suivrez aussi dans la rubrique itinéraire le parcours de M. Adjumani Paul, homme d'affaires que nous avons rencontré à Daloa. Il nous parlera de son parcours de vie. Mais bien avant tout cela, explication de certains termes que vous entendrez dans cette émission, et c'est dans le lexique économique. Bienvenue à tous.
Le lexique économique. Le lexique économique.
Le blanchiment d'argent.
Le blanchiment d'argent ou blanchiment de capitaux est une pratique qui permet aux criminels de s'enrichir en finançant des activités illégales, donc qui ne sont pas autorisées par la loi, telles que les ventes d'armes, des stupéfiants, le trafic d'êtres humains, la contrebande, les malversations, les délits d'initiés, la corruption et les opérations frauduleuses, pour ne citer que ces infractions-là. Et les experts déterminent trois étapes dans la procédure de blanchiment d'argent ou de capitaux, à savoir le placement des fonds illégaux dans le système financier. La seconde étape, c'est l'empilement. Donc, il s'agit ici de cacher la provenance des fonds. Et puis, la dernière étape, c'est l'intégration qui consiste à investir l'argent dans une activité légal.
Le groupe d'action financière, le GAFI.
C'est une organisation mondiale de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Elle fixe donc des normes internationales visant à prévenir les activités illégales et les dommages qu'elles causent à la société. L'organisation compte 40 membres et définit des normes internationales afin de garantir que les autorités nationales puissent s'attaquer efficacement aux fonds illicites liés au trafic de drogue, au commerce illicite des armes, à la cyberfraude et également à d'autres crimes graves. Pour l'histoire, le GAFI a été créé en 1989 et est basé à Paris, en France.
Regard sur la gestion économique nationale.
Monsieur Philippe Kodjo, bonjour.
Bonjour, monsieur Comé.
Le GAFI, une structure internationale qui lutte contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux, a inscrit la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays sur la liste dite grise. Tout d'abord, présentez-nous cette structure qu'est le GAFI.
Effectivement, la Côte d'Ivoire a été inscrite sur la liste grise du GAFI, qui est le groupe d'action financière qui dirige la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du point de vue mondial. Donc, il faut dire que c'est une organisation qui régit un certain nombre de pays, a pour objet d'aider à la sécurisation de ces différents pays, à la lutte contre le financement du terrorisme, la lutte contre le blanchiment d'argent.
Alors, justement, cette structure, le GAFI, a analysé la situation, en tout cas en Côte d'Ivoire et bien d'autres pays, des pays africains comme l'Angola, également l'Algérie aussi, sont des pays qui ont été inscrits sur la liste grise. Alors, quand nous parlons de liste grise, qu'est-ce qu'on doit entendre?
Concernant la liste grise, il faut entendre le fait que la Côte d'Ivoire soit sous haute surveillance. Cela signifie que le pays reconnaît qu'il y a des failles au niveau de la sécurisation financière et s'engage à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans un délai convenu.
Alors vous qui vous intéressez en tant qu'expert à ce domaine-là, quels sont les constats qui amènent à classifier ces pays-là?
Les constats qui peuvent justifier, on va dire, le fait que le groupement d'action financière puisse inscrire un pays sur une liste grise. Il faut dire que la liste grise, c'est la liste qui est très proche, on va dire, de la liste noire. Et ça sous-tend que nous sommes sous surveillance renforcée de ces différents organismes de régulation au niveau des organismes financiers de lutte contre le blanchiment d'argent.
Mais qu'est-ce que cela implique, justement, d'être sous surveillance du GAFI? Les conséquences éventuellement?
Les conséquences, déjà au niveau des investissements, il peut y avoir des impacts, des restrictions de certaines organisations bailleurs de fonds de financer certaines actions au niveau de la Côte d'Ivoire. Au fait, cette décision attire le regard de la communauté internationale sur certaines pratiques financières et qu'il faudrait remédier le plus rapidement possible.
Et vous qui êtes du domaine de la bonne gouvernance, qu'est-ce que vous avez constaté qui pourrait expliquer la présence de la Côte d'Ivoire sur cette liste?
Cela n'est pas surprenant hein, pour nous qui sommes dans le domaine. Il faut dire qu'il y a de cela quelques temps, la Côte d'Ivoire était déjà prédestinée à entrer dans cette liste grise. Et certains ajustements sécuritaires et de gouvernance ont retardé, je dirais, l'insertion de la Côte d'Ivoire sur la liste grise. Il faut dire que ce genre de décision émane d'un constat qui élève le risque, on va dire le risque d'insécurité financière sur les actions financières qui sont bien sûr réalisées dans le pays. Et aussi, il y a l'impact au niveau certainement de la gouvernance, je dirais, peut-être des signaux au niveau de la gestion de certaines institutions, de certaines dispositions qui ont été mises, qui n'ont pas été respectées. Donc, c'est ce qui peut justifier déjà la déclaration sur la liste grise. Et pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas vraiment intéressant. Pour nous qui sommes experts dans le domaine, ça nous amène à conseiller nos différents partenaires à renforcer la sécurité financière et aussi à réduire le risque de non-conformité en ce qui concerne les engagements de sécurité que nous avons pris.
Mais de manière basique, si on vous demandait d'expliquer ce terme, le blanchiment des capitaux, cela consiste à faire quoi?
Simplement, je dirais, c'est de rendre propre ce qui ne l'est pas. C'est utiliser, par exemple, de l'argent, je dirais un exemple, d'une activité qui n'est pas légale et de la faire entrer dans un circuit financier qui pourrait permettre de justifier ce montant. Voilà, je prends par exemple la vente de drogue en Côte d'Ivoire qui est illégale. Utiliser cet argent-là et l'utiliser à d'autres fins pour que ça puisse paraître justifié dans le patrimoine d'une personne ou dans le patrimoine d'un pays.
Alors, généralement, quand nous parlons de blanchiment des capitaux, c'est lié au financement du terrorisme. C'est quoi le lien?
Le lien avec le blanchiment de capitaux, c'est-à-dire la gestion de ces sommes d'argent qui ne rentrent pas dans un circuit précis, on va dire d'enrichissement, peut être utilisé de façon illégale et financer, on va dire, des activités de terrorisme. Donc c'est la prévention au financement des activités de terrorisme qui amène, on va dire, à sécuriser les financements que nous avons, c'est-à-dire la lutte contre le blanchiment d'argent.
C'est une information, en tout cas, qui n'est pas agréable. La présence désormais de la Côte d'Ivoire dans la liste grise du GAFI, que faire pour en sortir?
Effectivement, il faut qu'on sorte de cette liste-là parce que elle risque de réduire, on va dire, tout ce qui est financement extérieur, tout ce qui est financement au niveau des bailleurs de fonds. Elle donne une tache d'huile. Et je dirais que comme solution, il faudrait peut-être suivre le modèle sénégalais, pas forcément entièrement, puisque là, le Sénégal sort de la liste grise. Et ce qui a justifié la sortie du Sénégal, c'est des éléments au niveau de la gouvernance. Donc, il faut améliorer la gouvernance du pays. Il faut sécuriser, on va dire, les actions financières. Il faut qu'il y ait plus de transparence en ce qui concerne la gestion financière, en ce qui concerne aussi la gestion gouvernementale du pays.
Alors, pour le citoyen lambda, lorsqu'on va ouvrir un compte, on nous demande une certaine clarification de l'origine de notre fonds par des documents. Donc, il faudrait mettre en place une certaine traçabilité hein, des mouvements financiers.
Oui, effectivement. Je pense que cette disposition amènera les structures financières à renforcer un peu plus les investigations sur la provenance des fonds à leur disposition. Donc, effectivement, cela va sans dire qu'il y aura des procédures un peu plus corsées en ce qui concerne l'environnement financier du pays.
Ça, ce sont les conséquences pour le citoyen?
Oui, directement sur le citoyen, parce que depuis la lutte contre le blanchiment, on a vu des fiches à remplir qui sont supplémentaires, mais on dirait qu'avec cette décision-là, on ira au-delà des déclarations faites certainement par le client. Il y aura des investigations par derrière.
Monsieur Philippe Kodjo, merci à vous.
Merci à vous, monsieur Komé.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Amis auditeurs, merci de suivre Itinéraire. Itinéraire, c'est la découverte du parcours donc des personnes que nous interrogeons. Nous sommes aujourd'hui avec un monsieur. Monsieur Kwadwo Adjoumani, on vous rencontre à Daloa. Vous êtes originaire d'ici ?
Non, je suis de Kounfao, précisément à Korea.
Alors, Adjoumani, à Daloa, quelles sont les circonstances de votre présence ici ?
Juste pour les affaires, j'étais à Abidjan. Je suis venu juste... venu me chercher. Dieu a fait grâce, ça va.
Alors, justement, vous avez dit, juste pour les affaires, Adjoumani se retrouve loin, en tout cas, de son Kounfao natal. Et vous êtes à Daloa. Avant ça, qu'est-ce que vous faisiez?
Bon, je suis passé partout. Hein. J'ai fait beaucoup de travaux. Mais jusqu'à là, en basket, aller cueillir café pour les gens. Après, juste, je suis revenu à Abidjan, m'essuyer les chaussures. Après, travailler dans maquis, restaurant. J'ai tout fait, tout ce que l'homme doit faire. Manawa même, je l'ai fait. J'étais avec une femme, ma bien-aimée. Elle était étudiante. Après, elle a eu son doctorat. On l'a affecté à Daloa. Mais après, je travaille quelque part. J'étais chauffeur de la primature. Après, il y a eu la crise. Tout a basculé. On se débrouillait comme on pouvait. Je faisais location. Et après, on nous a rappelé. On travaillait. À chaque fois, je viens. Ma famille est à Daloa. Je repars à Bijou. Je vais 2 jours, on m'appelle. Il faut revenir, on doit partir quelque part. Il faut venir, on va partir quelque part. Bon, ma femme et moi, on s'est assis et puis on a réfléchi pourquoi aller faire les navettes. Donc un jour, j'ai décidé comme ça, pourquoi pas ne pas venir créer ma propre structure. Quand je suis venu, j'ai commencé les démarches. En attendant, je n'ai pas démissionné. À chaque fois qu'on m'appelle, bon, je reviens. Dès que j'ai mis tout en place, je suis reparti à Abidjan. J'ai travaillé 3 mois et j'ai demandé un congé de 3 mois. J'ai commencé mes affaires. Dieu a fait grâce et ça a pris.
On va donc aller étape par étape. Hein. Vous avez dit, dans votre parcours de vie, à la recherche donc du bien-être, vous avez fait tous les petits métiers. Alors, à quel moment vous retrouvez donc à Abidjan? Et pourquoi?
Et un jour, voilà, un ami il m'a dit, « Hey yo, moi je vais à Abidjan. » J'ai pris le cas avec lui. Et c'était en 93. Hein. Je suis arrivé à Abidjan, je ne connaissais personne. J'ai dormi même à Djamé. J'ai fait 2 semaines à Djamé en bas des tables.
C'est l'ami avec qui vous êtes venu à Abidjan?
Oh, malheureusement, on s'est perdu quand on était parti. Il a eu un accident. Le début même de mon histoire, on allait dans un village à Blengouin. Blengouin, c'est dans le département de Biankouma. Je suis allé en basket, cueillir cacao pendant 1 an. 75 000 francs. Vos premiers salaires. 75 000 francs. Malheureusement, j'ai eu un problème avec mon ami avec qui nous sommes partis. Il a eu un accident de moto. Il y avait un insisteur qui nous avait pris comme ses frères parce que c'était un baoulé. Là-bas, on trouve rarement les accents. Quand tu vois un accent, c'est ton frère. Donc, il a emprunté sa moto, il a eu un accident. Je suis parti pour 1 an. À cause de lui, j'ai fait 2 ans pour mieux prendre soin de lui. L'un an, je l'ai perdu. J'ai mis ça dans ses soins. Mais je ne pouvais pas revenir sans rien. Donc, j'étais obligé de faire 1 an encore pour 75 000 francs.
Vous revenez à Abidjan. Pourquoi vous ne retournez pas au village d'abord?
Bon, avant de venir à Abidjan, j'ai fait escale à Ama. J'ai fait 1 an et 1 an, j'ai eu un petit boulot dans une poissonnerie. Et je suis tombé sur un ami qui représente tout pour moi, père à son âme, mon ami Patrice. Un jour, il est venu payer quelque chose. Voici ma vie même, c'est là que ça a commencé. Un jour, il est venu payer du poisson. Je dis, mais monsieur, je vous reconnais. Je dis, mais je ne vous connais pas. Je dis, mais vous vous appelez Michel? Il dit, non, je ne suis pas Michel, mais je suis Patrice. Mais c'est mon grand frère qui est Michel. En quelque sorte, je ne le connaissais pas, mais je connaissais son frère qui se ressemblait. Il dit, effectivement, c'est mon grand frère. Il dit, ah, je viens de Corée. Il dit, effectivement, je viens de Corée. Donc, après, 2 mois après, il était au lycée professionnel. Il est venu me voir dans la chambre, là, il partait, ils sont 6 garçons, ils partaient, même chat. Est-ce que... Je dis, mais viens. À ce moment, j'avais chambre salon. Viens, va dormir. Voici comment je me suis retrouvé à Abidjan. Parce que quand le monsieur, il a fini ses études, il est allé travailler. 6 mois après, il est revenu me chercher. Il dit, ah, maintenant, je travaille, pas laisser mon frère qui m'a amené. Donc, il est revenu. Voici comment je me suis retrouvé à Abidjan.
Vous vous retrouvez à Abidjan, vous commencez à cirer les chaussures et à faire tous les petits boulots, hein, comme on le dit. Mais là, en ce moment-là, est-ce que vous aviez un projet dans la tête en vous disant, voilà, si j'ai de l'argent, voici ce que je veux faire?
Oui, j'avais un grand projet, puisque quand j'ai regardé derrière moi, la famille, c'est... je voulais tellement arriver. Voici pourquoi j'ai abordé tous les boulots. J'ai commencé les boulots qui pouvaient me donner un petit moyen. J'ai commandé par Sirage, après Manawa, après Magui. Et là, j'ai fait mon permis. À chaque fois, dans l'état de ma vie, chaque 6 mois, je dois avoir quelque chose. Je dois changer de boulot. Et le boulot que je dois avoir doit dépasser ce que j'étais dedans avant. Franchement, je ne sais pas comment vous expliquer. Peut-être il y a eu un appui de Dieu. Quand moi-même, je me couche aujourd'hui, je regarde mon parcours. C'est Dieu seul qui peut expliquer tout ce que j'ai dit. En faisant tout ça, il faut toujours croire. Mais avant que Dieu t'élève, toi aussi, il faut batailler fort.
Donc, vous restez à Abidjan, vous faites tous les petits boulots. Ensuite, vous passez votre permis, vous l'avez indiqué, hein, vous devenez chauffeur.
Oui, Dieu a fait grâce. Hein. Comme je le dis, toujours Dieu. Bah, j'étais chauffeur de Ororo, après taxi compteur. De taxi compteur, j'ai rencontré un autre monsieur. Il m'a fait, je l'ai roulé, il est à ta voiture, il est en panne, je l'ai roulé, mais vous êtes un grand chauffeur, j'ai dit encore moi, je n'ai jamais roulé quelqu'un. Tant qu'on a fait le course, le soir, le monsieur m'a demandé, mais ta réception c'est combien? Il lui a dit que c'est 30 000, il dit d'accord, j'étais dans 45 000. J'ai dit, mais pourquoi? Quand nous sommes arrivés, mais il est rentré chez lui. Je ne sais pas si le monsieur voulait me tester. Il est rentré chez lui, il allait se coucher 45 minutes, une heure. Deux heures après, je suis allé voir le vigile. Ah, je suis venu avec un monsieur, ça fait deux heures, il est rentré. Il dit, c'est qui? J'ai dit, le monsieur, il dit, mais c'est mon patron. Mais il dort. Il dort, on ne peut pas le réveiller parce que moi, je dois partir travailler. Il dit, ah, quand patron dort, on ne peut pas le réveiller. D'accord. Je suis allé, comme je connaissais la maison, et le monsieur m'a rassuré que c'était son patron. Je suis parti. À 20h, je suis venu garer, le monsieur occupé. C'est après, il s'est rappelé, mais je suis venu avec un taximètre. Le vigile m'a dit que non, il est arrêté là, depuis là, il est arrêté. Et puis lui-même, il sort. Mais monsieur, vous êtes patient, vous êtes de quelle ethnie? Et je lui ai dit que j'étais après. Il dit, ah, ok, d'accord. Il m'a donné 45 000, ça va? J'ai dit oui, monsieur. Et on s'est changé de numéro. Là, je suis parti. Trois jours après, le monsieur m'appelle. Il dit, est-ce que je peux l'accompagner? J'ai dit, où? Il dit, à Bandoko. J'ai dit, monsieur, je n'ai jamais roulé. Moi, je roule seulement que dans la ville d'Abidjan. Il dit, non, on va se débrouiller, on va partir. Et voici comment c'est parti. On est parti à Bandoko. On a fait une semaine. Le monsieur, il m'a payé chaque jour 35 000. C'est la recette que je faisais. Okay, le taxi, ce n'était pas pour moi. Bah, j'avais que 3 500. Donc, il m'a donné tous les 35 000. Et je rentre chez moi. Il me rappelle le lendemain. Mais tu es où? Je dis, je suis à la main. Mais tu ne viens pas au travail. C'est qui? Bah, je n'ai pas enregistré le monsieur. Il dit, mais le monsieur que tu as envoyé à Bandoko. Mon bureau n'était pas de passement. Il avait un deuxième bureau à engrais. On dit, bah, trouve-moi. J'y vais. Donc, voici comment j'ai eu mon travail. Et après, il m'a envoyé à la primature.
Alors, vous travaillez maintenant à la primature. Et puis, comme vous l'avez indiqué, hein, la crise faisant, vous revenez encore, on peut dire, au début de votre vie. En ce moment-là, ce carrefour de vie-là, qu'est-ce que vous décidez de faire?
J'ai décidé comme ça, pas plus que j'avais un petit truc. Dieu fait grâce, ma femme a aussi, elle a commencé à travailler. Elle et moi, c'est ma partenaire, on a causé ensemble. Et puis, on a décidé quelque chose. Ah, voici les conditions, je l'ai créé, je suis venu, j'ai cherché mes trucs. Et puis, j'ai commencé mes entreprises.
Donc, aujourd'hui, vous êtes à Daloa, hein, c'est à cette occasion qu'on vous rencontre. À Daloa, vous décidez de vous lancer dans vos activités. On peut savoir dans quel domaine Adjoumani exerce aujourd'hui?
Ok, d'accord. En tout cas, je suis dans le domaine des boissons. Je suis un grossiste. J'ai un dépôt.
Ce secteur-là, c'est quelque chose que vous connaissiez avant. Pourquoi le choix de ce secteur?
On ne peut pas se lancer dans un truc que vous ne maîtrisez pas. Puisque dans mes petits boulots, je dis j'ai fait tout. Hein. Tac, j'ai vu tout. J'ai travaillé dans poissonnerie. Après tout ça là, qu'est-ce qui peut m'arranger? Donc j'ai décidé, j'ai pris un. Je voulais même commencer par la poissonnerie. Mais tu sais, à chaque fois, il faut te renseigner. Je suis allé me renseigner. Il me dit, ah, la poissonnerie, il faut forcément, si tu veux faire une poissonnerie, il faut avoir le triple de ce que tu veux. La commande que pas à chaque fois, tu peux avoir des problèmes. La chambre peut se gâter.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'Adjoumani, lorsqu'il regarde son parcours, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, Adjoumani se dit, je suis arrivé.
Arrivé, non. Là, arrivé, non. Moi-même, je pense que c'est maintenant même que je commence. C'est maintenant même que je suis en train de m'organiser. Comment je vais m'organiser et puis moi-même faire un point sport. C'est maintenant que je commence. Arrivé, non. Je viens juste de commencer.
Comment Adjoumani gère ses affaires aujourd'hui pour permettre de s'occuper de sa famille, réaliser ses projets?
Vous savez, frère, la vie elle-même est forme. La vie, là, est forme. La vie m'a formé. Où je vais me coucher? Souvent, je dors jusqu'à 2h du matin. Et je réfléchis où je suis quitté. Souvent, moi, je vais juste pour manger. Je dois manger sur un cocotier pour cueillir, juste pour boire de l'eau. Et aujourd'hui, si Dieu m'a permis de pouvoir manger un poulet, et puis je vais m'arrêter là, je dois manger des dons demain. Voici ce que je cherche. Sinon, c'est la vie qui m'a formé. Je ne veux pas revenir. Moi, où je suis, je ne veux pas. Ce Dieu qui m'a donné cette force, il va doubler ces forces-là.
Est-ce qu'il est arrivé des moments où Agumani est désemparé, où les affaires ne marchent pas?
Même à chaque fois, ça arrive. Quand tu es un homme d'affaires, à chaque fois, ça arrive. Ça arrive même en ce moment où je vous parle, je suis dans... Mais je sais que ça va redémarrer. Bon, on a les moments où ça ne va pas, rien ne va. Tu dors, mais tu ne dors pas. Mais une fois que tu es dedans, tu sais comment régler tes problèmes. Tu as les partenaires, il y a les gens, tu parles, il y a les banquiers. Au fait, nous, un homme d'affaires, c'est quoi? Parce que c'est prêt, pas. Toi-même, intelligemment, tu ne peux pas avoir l'argent pour faire tout. Et ça ne marche pas, ça te fait maigrir, ça te fait penser. C'est arrivé un moment, mais tu penses que tout est écroulé autour de toi. Non, c'est là, mais il faut prendre conscience et puis tu te réveilles. Sinon, à aucun moment, je vais penser que non, à partir de Dieu, comme ça ne marche pas ou bien comme ça va pas trop, je vais laisser. Non, je change pas. Et c'est là, mais qui te forme.
Justement, on va terminer cet entretien. Si on vous demandait, par rapport à votre parcours, quel conseil vous pouvez donner aux plus jeunes?
Ouf, il y a beaucoup de conseils, hein. C'est pas facile, hein. C'est difficile. Et quand c'est difficile, c'est là il faut prendre conscience. Ah, je n'ai personne derrière moi. Tu cours le respect. Et il faut avoir une conviction. Ça, c'est la base. Le vrai projet, là. On commence avec un petit truc. Et puis, tu te vois grandir. Mais un bon projet se planifie. Au fur et à mesure, ça s'augmente, ça s'augmente, ça s'augmente.
En tout cas, conseil de M. Agumani, que nous avons plaisir à écouter, itinéraire donc de cet homme d'affaires que nous rencontrons à Dalois. M. Agumani, merci.
Oh, merci, frère.
Alors, mes auditeurs, on va se retrouver avec beaucoup de plaisir, hein, sûrement dans une autre ville. Merci de nous avoir suivis.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'information économique.